coin gauche, Pierre Biker de Limoilou, Jeff the Snake Blanchet. You gotta fight! Dans le coin droit, directement du Vieux-Lévis, Paul, la camisole Charles.
Là, il va falloir faire une campagne de sociofinancement pour payer un T-shirt à Paul parce qu'il veut pas scraper son linge pour faire une mouche à la moutarde. Puis tout, c'est bien compliqué.
Il y a pas moyen de dire quelque chose hors d'onde sans que ça se retrouve en onde dans ce maudit bureau-là.
T'es en train de te défiler. Je m'occupe du Vic, tu t'occupes de la mouche à la moutarde.
Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je disais à notre ami Will D'Olive, qui est à la mise en onde cette semaine, je disais, mon plan de match, ça va être, parce que j'essaie de me faire le plan de match le plus efficace possible. Mon plan de match, dans l'ordre, ça va être Sinus-Reims, parce que je sais que ça marche, puis oui, j'en ai chez nous.
Ça, je peux témoigner.
Après ça, bouillon de Vix à Germain. Germain qui nous a appelé.
Avec bouillon, la serviette sur la tête.
Bouillon de Vix à Germain.
Les effluves.
C'est ça. Et ensuite, ponce au gin, recette de ma grand-mère. Tout ça entre la deuxième et la troisième période du Canadien. Comme ça, je vais m'endormir sur la troisième période. Bang! Puis demain, mon gars, tu vas penser que je reviens d'un... Tu vas penser que je suis prêt à courir un marathon.
Moi, je pense que t'as peur de brûler ta petite peau avec la mouche à la moutarde. Avoue, là. T'as peur de devoir consulter un dermato parce que ta mouche à la moutarde n'a pas marché.
D'abord, le simple réflexe de consulter un dermato, Jeff, tu devrais savoir que c'est pas dans mes habitudes. Mais deuxièmement, là, je trouve que tu commences à avoir un ton un peu intimidateur. J'aime pas ça. Sache-le, là, je le dis devant nos millions d'auditeurs.
Okay.
Jeff Blanchette est un intimidateur. De cours d'école, tu es un bully, Jeff.
Puis toi, t'es un choker, parce que tu te défiles d'un truc d'auditeur.
Non, j'ai pas assez de moutarde à l'ancienne, va falloir que j'aille... Mais en même temps, faut absolument que j'aille à l'épicerie de toute façon.
Bon, regarde,
toi. OK, si je trouve de la moutarde en poudre et un coton de fromage, je vais le faire.
Rigueur.
Parfait.
Ben, c'est parce que c'est ça qu'elle disait à la personne, le coton de fromage.
Oui, tu vas le faire dans les règles de l'art, et on va pouvoir tester... la marchandise demain.
Et enfin, merci à Seb qui dit « Tu lui as donné le pire, tu lui as imposé. » Ben, c'est ça. Je me suis fait imposer ça. Alors, si je trouve poudre de moutarde et coton de fromage, je l'essaye.
Parfait.
Mais je suis pas mal sûr que je trouverai pas de coton de fromage, donc ça fait mon affaire.
Bon, on a désormais l'occasion de lui parler deux fois par semaine sur des sujets économiques de l'heure. On rejoint Jean-Denis Garon, professeur d'économie à l'ESG UQAM. Salut Jean-Denis.
Salut, ça va?
Ouais, ça va bien. Je pense que t'es dans le club des grippés, toi aussi. Donc, on va avoir des trucs à te partager, là. On vient de faire un segment là-dessus.
Vous prenez ça très au sérieux. Prenez ça très au sérieux.
C'est très sérieux. Ton rétablissement nous tient à cœur, Jean-Denis. On a fait ça juste pour toi.
Vous êtes bien fin.
Je veux revenir sur ta chronique d'hier dans le Journal de Québec. T'as profité de ta tribune pour revenir sur les élections fédérales. Et là, ben, on parle beaucoup des différentes promesses des partis. Mais tu rappelles, à juste titre, que la principale job du fédéral avec notre cash, ben, c'est de le redistribuer, en fait.
Ben oui, c'est toujours surprenant quand on suit la campagne fédérale de voir tout ce que les partis nous promettent dans des champs de compétences qui sont pas les leurs. Puis là, c'est intéressant d'en parler de ça parce que là, on a finalement toutes les plateformes financières des partis, donc celle des conservateurs, on pourrait dire que c'est un accouchement tardif.
Oui.
Là. Et on a des partis qui, comme le NPD ou comme le Parti libéral, qui nous font des promesses en santé, qui nous font des promesses en éducation. On va même jusqu'au NPD à nous promettre des petits déjeuners pour les enfants dans les écoles. Et ce qui me surprend, c'est que on souligne pas assez que c'est pas la job de fédéral de faire ça. Alors, ce que j'ai fait dans ma chronique du Journal de Montréal, que je vous invite à aller lire ma chronique d'hier sur le web, c'est de décortiquer le budget fédéral, dans le fond. Et quand vous regardez ce que le fédéral fait avec notre argent, on se rend compte que il y a presque le quart du budget fédéral qui sert à faire des chèques.
Okay.
Donc, faire des chèques aux provinces sous forme de transferts en santé, en programmes sociaux. Puis la majorité de ça, c'est pas de la péréquation. L'Alberta en reçoit aussi. Puis après ça, le fédéral fait des chèques aux gens. Chèques d'assurance chômage, des prestations pour enfants, chèques de prestations pour la vieillesse, etc.
Oui.
Après ça, t'enlèves l'armée, puis t'enlèves des grosses dépenses qui sont pas vraiment des dépenses de prestations de services sur le terrain. Puis il reste à peu près rien, en fait. C'est que le fédéral nous fournit pas de services. Donc moi, quand je regarde des partis comme les libéraux ou le NPD, qui nous promettent de se mêler d'éducation, ils se promettent de se mêler de santé, des petits déjeuners des enfants, mais moi, pour moi, ce que je vois, c'est de la chicane arriver. Puis je peux te dire que, entre autres, avec le NPD, ça m'inquiète beaucoup.
Mais là, ils vont évoquer leur fameux pouvoir de dépenser, là, c'est-à-dire de nous renvoyer l'argent, mais en mettant des conditions qui sont là-dedans. C'est nulle part dans la Constitution, ni dans celle de 67, ni dans celle de 82, mais quand même, ils en profitent abondamment, puis j'ai l'impression qu'ils le font de plus en plus, là.
Bon, c'est pas tous les partis là, qui veulent se mêler de nos affaires. J'en parlerai dans deux secondes du pouvoir de dépenser. Là, c'est sûr que les conservateurs et le Parti populaire, eux, ils sont pas en faveur d'un gros gouvernement. C'est que donc, comme ils veulent pas dépenser beaucoup, ils ont pas tendance beaucoup à se mêler de nos affaires. Ouais. Les libéraux arrivent loin deuxième. Les libéraux ont toujours été en faveur de nous imposer des conditions en santé. Puis le NPD, ben là, ben ça, c'est le champion poids lourd de l'empiètement. On a presque l'air... Ils donnent presque l'impression de faire une campagne provinciale. Mais t'as raison de dire qu'il y a le fameux pouvoir de dépenser qui dit que, dans le fond, la Constitution a dit que le fédéral n'a pas le droit de faire des lois dans certains champs de compétences comme la santé, l'éducation, l'aide sociale, etc. Mais comme il y a un vide dans la Constitution, ben, les cours ont dit que le fédéral a quand même le droit de dépenser l'argent qu'il a comme il veut.
Ouais.
Alors, le fédéral a le droit de nous faire des transferts en santé. Ça viole pas ses compétences. Puis il a le droit aussi de nous mettre des conditions. Il a le droit de nous dire si votre système de santé n'est pas universel, s'il n'y a pas de gestion publique dans le système de santé, etc. C'est le cas de la loi fédérale sur la santé. Ben, il a le droit de nous couper les fonds. Et c'est en vertu de ça que le fédéral pourrait dire au gouvernement conservateur nouvellement arrivé au Nouveau-Brunswick qui va fermer la seule clinique d'avortement du Nouveau-Brunswick. Oui. Ben, c'est en vertu du pouvoir de dépenser qu'ils peuvent leur dire faites ce que vous voulez, mais on peut vous couper et vivre.
C'est ça.
Alors, quand on lit les promesses fédérales, il faut comprendre que le Québec, lui, historiquement, dans ces types de programmes-là, fédéraux, dans les champs des provinces, là, le Québec a typiquement demandé à pouvoir se retirer avec pleine compensation financière. Puis c'est bien, bien dur de faire comprendre ça au Parti fédéraliste parce que les champs de compétences provinciales, c'est ces champs de compétences-là qui pognent en campagne électorale. Puis les gens veulent se faire soigner puis veulent que leurs enfants aillent à l'école.
Exact, parce que les actions du fédéral en tant que tel, on les voit pas nécessairement. Le municipal va s'occuper du déneigement puis des vidanges, le provincial va s'occuper du système de santé puis de l'éducation. Il reste moins de trucs concrets pour le fédéral.
Exact. Puis c'est aussi pas sa job de faire les trucs concrets parce que le gouvernement fédéral, c'est un gouvernement qui est là d'un océan à l'autre. Le pays est grand. Les préférences des Canadiens, ce qu'ils veulent comme politique publique, ça varie d'une province à l'autre. Alors, il faut accepter que le fédéral redistribue de la richesse entre les provinces, collecte du revenu, verse des transferts aux provinces. Mais c'est sûr que on a tendance à voir davantage le médecin que le transfert fédéral.
Exact.
C'est ce qui fait souvent que les politiciens fédéraux disons qu'ils dépassent un peu hors de leur cours.
Oui, c'est le cas du NPD notamment ces temps-ci avec l'assurance médicaments puis l'assurance dentaire. Là, ça, c'en est deux gros morceaux qu'ils mettent de l'avant, mais qui, dans les faits, ils n'ont pas d'affaires à aller jouer dans la santé comme ça. Là.
L'assurance médicaments, l'assurance dentaire, les déjeuners aux enfants, les services de garde aussi, les partis fédéraux veulent se mettre les pieds dans les services de garde. C'est toujours un défi pour Québec de dire au fédéral, nous, c'est déjà fait, nous, ça fait longtemps qu'on a réglé ça, puis on est mal à l'aise que vous preniez notre argent pour financer ça dans les autres provinces. On veut un droit de retrait avec compensation financière. Alors, c'est pas nouveau, ça. Maurice Duplessis refusait de l'argent du fédéral en éducation parce que le fédéral voulait y imposer des conditions.
Ouais.
Tous les partis de tout temps au Québec, même depuis avant la Révolution tranquille, ont fait ces demandes-là. On appelle ça les demandes traditionnelles du Québec. Et moi, j'espère que le fédéral va écouter ça, puis qu'il va accepter qu'il y a un peu de peu importe quel parti ce sera, un peu d'asymétrie dans sa façon de vouloir satisfaire les besoins des Canadiens.
Mm-hmm. Jean-Denis, je veux qu'on parle un peu des conservateurs. Tu l'as dit, ils ont enfin dévoilé leur cadre financier. Ça a été dévoilé vendredi, au lendemain du dernier débat de la campagne, celui qui était en français. Vois-tu là-dedans une manœuvre pour protéger un peu une plateforme qui serait plus faible?
Ben, tu sais, d'abord, une observation. T'sais, les conservateurs nous ont donné ça vraiment dernière minute, là. Alors, s'il y a des gens du parti qui nous écoutent, c'est un peu cheap de nous donner ça après les débats. Sur le site web, là, c'est dur. Il y a beaucoup de pubs. C'est dur de trouver les données. On dirait presque qu'ils veulent pas qu'on le trouve. Bon. Maintenant qu'on le trouve, ben, c'est vraiment un cadre conservateur. T'sais, c'est ça à quoi on s'attend d'un parti conservateur qui veut, tu veux diminuer l'intervention de l'État, qui veut ramener surtout l'équilibre budgétaire. En tout cas, moi, je pense pas qu'ils vont je pense qu'ils vont avoir de la difficulté avec ce plan-là, mais ramener au moins l'équilibre budgétaire. Puis c'est le seul parti qui a la notion d'équilibre budgétaire dans son plan. Alors, c'est typiquement conservateur. On veut, tu sais, prioriser les des dépenses pour vraiment pour l'infrastructure, couper une partie des dépenses d'infrastructure de Trudeau, éliminer certaines subventions aux entreprises pour 1,5 milliard par année. On parle pas de toutes les subventions. On parle pas de couper vive aux pétrolières, là, qu'on s'entende. Alors, c'est vraiment un cadre conservateur où on coupe les dépenses. On essaie d'aller chercher quelques revenus pour équilibrer.
Il y a une mesure qui a retenu mon attention. En fait, on pourrait la résumer en disant couper dans le gras. On veut améliorer les dépenses de fonctionnement de la fonction publique, par contre. Donc, on dit revoir l'utilisation des consultants, les locaux non utilisés, etc. Le principe est bon. Moi, c'est quand je regarde le montant qui est attribué à cette promesse-là que je me dis, OK, il y a tant de gras que ça du côté fédéral.
Bon, mais tu sais, à un moment donné, les gens veulent que le fédéral leur donne des services. Quand il y a des Canadiens pris à l'étranger qui sont en otage de la Chine, on veut les servir. Bon, mais à un moment donné, tu sais, il y a des dépenses à ça. Alors, implicite dans le cadre des conservateurs, c'est qu'il y a beaucoup de gros au fédéral. Puis là, ben, ce qu'on veut nous faire épargner, retenez les montants, là, ce serait pour l'année prochaine 800 de 800 millions. Puis pour l'année d'après, 2021-22, ça passerait à presque 2 milliards, puis l'année d'après 3 milliards, puis l'année d'après 4 milliards, puis l'année d'après 5 milliards. Puis ça atteint presque 6 milliards là, une fois que le mandat est terminé. Alors, tu sais, on comprend la difficulté de ça là. Quand tu veux couper dans le gras, mais c'est vrai pour dans nos budgets personnels, c'est vrai pour le gouvernement, tu vas faire le plus facile en premier.
C'est clair.
Vrai? Tu sais, puis plus tu essaies d'en couper, plus c'est tough. Plus ça fait mal, plus c'est difficile à accepter, plus les sacrifices sont grands. Alors, c'est sûr qu'il y a de l'incertitude quand même assez importante par rapport à la capacité des conservateurs d'aller chercher jusqu'à 3, 4, 5 milliards récurrents dans le budget fédéral, hein, coupant dans le gras. T'sais. Couper dans le gras, ça veut dire faire plus avec moins. On s'entend que c'est vite dit, c'est difficilement fait. Alors, c'est sûr que moi, j'ai des doutes là, sur le directeur parlementaire du budget là, aussi, là, quand il évalue la mesure, il dit que ça va être difficile. Mais on va jusqu'à la fin de mandat, là, 5 milliards par année de coupures.
OK, donc il y a des gens...
C'est assez intéressant.
On va pouvoir se prononcer sur le principe, sur l'idée, mais comment ça va être fait dans le réel, ben faudrait voir comment un gouvernement Scheer agirait de la sorte. En terminant, Jean-Denis, il y a le prix Nobel d'économie qui a été attribué hier. Je suis désolé, c'est pas toi qui l'as eu, donc va falloir recommencer l'an prochain. C'est un trio qui l'a eu. C'est la Française Esther Duflo, son mari américain d'origine indienne, Abhijit Banerjee, et l'Américain Michael Kremer. Pourquoi est-ce qu'ils ont été récompensés, ces trois-là?
Super intéressant, le prix Nobel. J'en parle rapidement. C'est un des rares prix Nobel ces dernières années qui a été obtenu pour la recherche sur le terrain. Tu sais, à l'heure des fake news, à l'heure où chaque personne a sa petite théorie, là, ces gens-là qui font de l'économie du développement, qui essayent de trouver des façons de sortir des gens de la pauvreté dans le tiers-monde, dans les pays émergents, c'est des gens qui ont fait, avec les êtres humains, un peu ce qu'on fait pour les médicaments, qui vont sur le terrain avec des grosses équipes, qui testent des politiques anti-pauvreté, un peu comme quand on teste un médicament avec les mêmes méthodes statistiques pour vraiment avoir des résultats concrets. Alors, c'est vraiment un des quelques prix Nobel là, ces dernières années de gens qui se salissent les mains et qui vont vraiment sur le terrain voir comment les choses fonctionnent. Puis je pense que c'est vraiment le type de prix qu'il faut saluer et accueillir favorablement parce que ça nous rappelle l'importance, quand on parle d'économie, quand on parle de finances publiques, quand on parle de ces sujets-là, de se fonder sur les faits puis sur les données, puis d'aller chercher des données puis de financer cette recherche-là pour qu'on soit capable de parler intelligemment d'économie.
Puis des fois, on a l'impression que les prix Nobel, c'est des grands intellectuels. C'est le cas pour ces trois-là, mais ils sont pas dans leur tour d'ivoire nécessairement à regarder les grands concepts théoriques. Il y en a vraiment qui vont dans le pratique, et là, on a cru bon de les récompenser.
Tu sais, être un intello, ça veut pas dire c'est sacré du monde, ça veut pas dire s'intéresser à des choses qui intéressent personne. Hein? Oui. Tu sais, les prix Nobel de physique, certaines de leurs découvertes affectent notre vie de tous les jours. Alors, c'est la même chose pour ces gens-là, puis c'est la même chose pour les économistes comme moi qui sont aujourd'hui à radio, puis qui discutent des questions économiques. Alors, ça nous rappelle aussi, je pense, une super bonne observation que tu fais, que les intellectuels, les gens dans les universités, c'est pas vrai qu'on est tous isolés, puis c'est pas vrai qu'on se cache du monde, puis c'est pas vrai qu'on n'est pas ouvert à la critique, puis c'est pas vrai qu'on contribue pas. Puis je pense que ça, c'est vraiment c'est vraiment un bel exemple de ça, puis je pense qu'on est très fiers de ce prix Nobel-là, puis c'est amplement mérité.
Exact. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous aujourd'hui. On se reparle dans deux semaines.
Salut.
Salut Jean-Denis, à bientôt. Jean-Denis Garon, il est professeur d'économie à l'ESG UQAM, l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.
On nous signale de la congestion sur l'autoroute Laurentienne en direction sud à partir de Soumande, ça remonte jusqu'à Capitale à peu près. La Sûreté du Québec nous signale rien d'anormal. C'est ce que Benjamin me donne comme information. Okay. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là, vous voyez, ça ralentit. 25226, peut-être nous envoyer un texto, là, évidemment, si vous conduisez pas.
Et voilà, sinon, étoile 933.
Mais pour nous dire si vous voyez, y a-t-il un accident, y a-t-il quelque chose, puisque pour l'instant, les cartes nous disent que ça ralentit sur Laurentienne, donc, en soumant des capitales, mais on n'a pas raison. Si vous la connaissez, ben, faites-nous le savoir qu'on puisse partager l'information à tout le monde.
Il y a deux chefs de partis politiques fédéraux qui sont en ville aujourd'hui, Yves-François Blanchet du Bloc et Andrew Scheer du Parti conservateur. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont eu à annoncer? On en parle avec Jonathan Bernard dans quelques minutes.
Présentement.